Claude Lefort, Jacques Monod, Saba Abouessalam, c'est la règle de trois de Edgar Morin. Dans son livre « Les souvenirs viennent à ma rencontre » paru à l'automne dernier, Edgar Morin consacre un chapitre à chacun de ses proches. Il décrit le philosophe Claude Lefort comme un frère et le qualifie d'îlot d'intelligence et de clairvoyance parmi l'aveuglement général des gauches révolutionnaires. Edgar Morin fait sa connaissance en 1956 lorsque le régime soviétique écrase la révolution hongroise. Malgré son engagement à gauche, Claude Lefort condamne la répression. Ce moment nous a fortement unis et liés, écrit Edgar Morin. Il partage le même désir de penser hors des consensus idéologiques, d'aborder les sujets dans leur complexité.
Ce que Solzhenitsyn appelle l'idéologie de granit, ça n'est pas seulement la certitude attachée à un certain nombre d'idées, mais c'est la certitude d'être ensemble dans le parti détenteur de ces idées.
Lorsque Claude Lefort meurt en 2010, Edgar Morin écrit « En moi, amitié, admiration, chagrin sont mêlés à jamais ». Jacques Monod, prix Nobel de médecine en 1965, a dirigé le service de biologie cellulaire de l'Institut Pasteur. Il rédige Le hasard et la nécessité à la fin des années 60 et fait lire le manuscrit à Edgar Morin qui le taxe aujourd'hui de livre audacieux qui remplaçait le déterminisme par le hasard.
La source de l'évolution, ce sont des événements microscopiques, moléculaires qui se produisent au hasard, c'est-à-dire qu'ils sont essentiellement imprévisibles et qu'ils sont aveugle à leurs conséquences.
Dans sa méthode, Edgar Morin considère lui aussi la notion d'incertitude comme fondamentale.
Ceux qui veulent croire en une connaissance certaine, disons, c'est pour moi alors la simplification, la mutilation, l'erreur.
Les dernières pages des souvenirs viennent à ma rencontre sont dédiées à Saba Abouessalam. En 2009, ils assistent tous deux au Festival des musiques sacrées du monde à Fès au Maroc. Et Edgar Morin évoque aujourd'hui leur communauté de destin. Depuis, tout ce que j'ai écrit ou dit publiquement porte son empreinte, ajoute-t-il. Saba me donne jeunesse dans ma vieillesse. Elle entretient ce feu que j'appelle pour moi-même ma mission.
Claude.
Le livre que vous nous proposez maintenant, pour nous inviter à inventer un nouveau monde plus solidaire, vous dites « J'ai consacré mes ultimes énergies à ce livre, comme s'il s'agissait, pardonnez-moi, d'un livre testamentaire. » Mais j'élargis la question. Est-ce que vous, qui êtes le dernier de toutes ces générations, ce qu'on a vu, les Lefort, les autres, tous vos compagnons de lutte et de réflexion, est-ce que c'est en leur nom que vous venez nous dire qu'il faut tout changer en ce siècle maintenant?
Vous savez, je ne sais pas si je suis le dernier ou un des premiers. En tout cas, c'est vrai que je fais partie d'une génération ancienne, mais c'est vrai que j'ai toujours été porté vers le futur. Et c'est vrai aussi de dire que changer de voix, qui lui-même succède à un autre livre de 1912 qui s'appelle « La voix plus massive », mais déjà qui porte cette réflexion sur le changement. Il est vrai que tout ceci est le fruit d'un ensemble de réflexions qui sont venues de mes expériences de vie et de crise. C'est certainement, disons, ce qu'on peut appeler un testament politique, un testament de pensée.
Et sur ces expériences, justement, Edgar Morin, que vous avez traversées, l'expérience originelle, celle de la grippe espagnole, justement, comment est-ce que vous expliquez que la grippe espagnole, qui a tué beaucoup, beaucoup plus de monde que le Covid-19...
Et même que la guerre mondiale,
n'ait peut-être pas suscité la même réflexion, la même interrogation sur le monde d'après, le fameux monde d'après, que ces réflexions que nous essayons et que vous nous proposez dans ce livre, justement. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas posé peut-être les mêmes questions que les questions auxquelles on essaye de trouver des réponses aujourd'hui?
Écoutez, premièrement, cette grippe coïncidait avec un autre désastre qui avait commencé avant, qui est la Première Guerre mondiale. Mmh. Et les autorités ont occulté au maximum cette grippe. Et du reste, on l'a appelée espagnole, bien qu'elle ne venait pas du tout d'Espagne, pour en faire un élément étranger. Donc, si vous voulez, cette grippe arrivant dans un plein désastre, un nouveau désastre, du coup, s'est trouvée noyée. Elle n'a pas provoqué ni confinement, ni arrêt de l'économie, puisque l'économie fonctionnait à fond pour la guerre. Donc, si vous voulez, les conditions sont tout à fait autres que maintenant, alors que le coronavirus arrive en dans une période apparente de paix et qu'il surgit brusquement et qu'il va déclencher tout ce que vous avez dit.
Dans une période de paix, la vie, évidemment, prend une autre importance, sans doute un autre poids qu'elle ne l'avait à l'époque de la grippe espagnole. Ce qui a peut-être aussi changé, ou ce qui commence peut-être à changer, Edgar Morin, c'est notre regard sur les solidarités. Vous êtes souvent inquiété de la destruction des solidarités, de la montée de l'individualisme. Nadia, la crise sanitaire est peut-être en train de commencer à changer tout ça.
Oui, en tout cas, on dispose aujourd'hui de chiffres qui sont assez réjouissants et qui montrent qu'en effet, la crise sanitaire, ça a encouragé l'entraide et la solidarité entre les personnes, entre les individus. On sait que pendant le confinement, un Français sur trois a reçu de l'aide pour sa vie quotidienne, c'est-à-dire pour faire les courses, pour s'occuper des enfants. Et c'est de l'aide qui ne vient pas uniquement des proches, des amis ou de la famille, ça vient aussi de son voisin de palier, par exemple, puisqu'une personne sur sept a reçu l'aide d'un voisin. Et puis on a appris également, et ça c'est intéressant, que cette crise, elle a stimulé la générosité des plus jeunes. Les moins de 35 ans se sont investis, engagés auprès de son domicile, par exemple, auprès des migrants, auprès des plus fragiles. Comment est-ce que vous comprenez ce phénomène? Ça veut dire que les crises, les cataclysmes, ça peut finalement réveiller les solidarités, des solidarités qui étaient endormies, en quelque sorte?
Alors écoutez, je vais vous dire... Ce n'est pas le premier cataclysme qui réveille les solidarités. En général, le tremblement de terre au Mexico, et même quand il y a eu ces inondations en Asie, provoque même des solidarités lointaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans notre société européenne, occidentale, c'est vrai que les solidarités concrètes se sont dégradées totalement. Il y avait la grande famille qui a disparu. Oui. Le mariage, le couple, ça se dissout facilement. Les solidarités de travail se sont dégradées dès les années 80. J'avais proposé de créer des maisons de solidarité dans les carrières pour secourir des détresses que les SAMU et autres ne résolvaient pas. Je continuais à promouvoir un service civique des jeunes de solidarité, pas civique pour n'importe quoi, uniquement pour la solidarité. Donc, si vous voulez... Je pense que la solidarité et la responsabilité, qui sont inséparables, parce que si vous êtes solidaire, vous vous sentez responsable, et vice-versa, ce ne sont pas seulement des vertus individuelles, ce sont des qualités propres à une société.